Bonjour à tous. Alors, ce matin, j'ai pas la prétention de vous enseigner, mais j'aimerais parler de l'intimité avec le Père ou avec Dieu. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus avancés que moi ici dans cette intimité avec le Père, mais j'aimerais simplement partager la joie des choses que j'ai découvertes et qui sont passées de mon cerveau à mon cœur. Voilà. Alors, je vis ces derniers mois un temps de réforme. Et il y a eu différentes circonstances, des rencontres, une situation en particulier. On a eu des enseignements, le séminaire avec le pasteur Dalana, et cette fameuse question, « Seigneur, qu'est-ce que je dois savoir et qu'est-ce que je dois faire ?» Il y a eu... Donc à cette conférence, Fabrice est venu me voir et il m'a dit « Je reçois du Seigneur que tu devrais lire le psaume 23 tous les jours. » Alors, je dis « Ok, merci. » Et donc je le fais, alors je ne le lis plus, hein, je le connais par cœur, donc j'arrive à le dire de tête. Et puis j'ai commencé cet été aussi le parcours à la recherche du Père avec Pierre Cranga. Alors vous avez déjà entendu parler certainement Pierre Cranga sur la parabole du fils prodigue. Et donc il fait un parcours, donc il y a au moins 40 vidéos qui vont vraiment dans le détail. Et si ce matin j'arrive à vous faire donner envie de faire ce parcours, ben c'est pas mal. Alors, pour commencer, j'aimerais simplement prier ce psaume 23. Et je vous invite à fermer les yeux. Éternel, tu es mon berger, et je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer dans de verts pâturages. Tu me diriges près des eaux paisibles, et tu restaures mon âme. Tu me conduis sur les sentiers de la justice à cause de ton nom. Et si je traverse les vallées de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alors, ce qui est amusant, c'est que ce matin, Geneviève m'a accueilli en me parlant d'huile sur ma tête. Alors, pour commencer, j'aimerais simplement vous donner quelques pépites pour vous mettre l'eau à la bouche, des choses que Pierre Cranga a dites. Et la première, c'est que Dieu n'attend rien de nous, mais il espère tout. Et nous pouvons l'appliquer aussi à nos proches, à notre conjoint, à nos enfants, à nos élèves. En fait, quand il y a l'attente, cela génère des reproches. Quand il y a l'espérance, ça génère l'intercession et l'encouragement. Et c'est tout à fait autre chose. Alors, la semaine dernière, vous aviez dit que à la journée des femmes, si un homme donne des bonnes choses à son épouse, elle le multiplie. Et en même temps, si on donne des mauvaises choses, elle le multiplie aussi. Alors, je fais juste une petite boutade. Donc, le porte-monnaie est neutre. Voilà. Non, ça marche pas. Quand on donne de l'argent à la femme, elle le dépense, elle le multiplie pas, non? Bon, c'est... Ok. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que nous, en tant qu'hommes, donc je vous renvoie la balle, hein, Nous, en tant qu'hommes, on a besoin d'encouragement. C'est notre la chose essentielle dont on a besoin, d'être encouragé. Et j'aimerais raconter une petite histoire. Elle n'est pas forcément vraie, mais ça illustre. Il y a un président des États-Unis qui est allé faire le plein dans une station de service. Donc ça, c'est déjà improbable, mais on va dire que c'est possible. En cachette, on a bien un président qui est parti en mobylette, hein, donc. Donc ils ont fait le plein une station de service et le président dit à sa femme, tu vois chérie, si tu avais épousé cet homme, tu serais en train de gérer une station de service. Et la femme lui répond, non mon chéri, si j'avais épousé cet homme, il serait président des États-Unis. Donc, pour dire, si vous encouragez votre mari, bah, il va devenir aussi beaucoup meilleur. Une autre, donc ça c'était une des pépites, après une autre, c'est que pour pouvoir rencontrer le Père, nous devons être conciliés avec nous-mêmes. Et Pierre avait vu sur une étagère une tasse qui l'a intrigué, c'est une tasse qui n'avait pas de fond. Et donc, il tenait cette tasse, il n'y avait pas de fond. Il s'est dit, en fait, c'est ça, quand nous ne sommes pas réconciliés, nous n'avons pas de fond dans notre coupe. Et on a parlé tout à l'heure de la coupe qui déborde. Mais s'il n'y a pas de fond, elle ne va jamais déborder. Et donc, en fait, si nous ne sommes pas réconciliés avec nous-mêmes, on peut dire, je t'aime, que tu es merveilleux, Dieu t'aime. Et en fait, la personne regarde sa tasse, elle voit ses pieds. Et donc, la coupe ne va jamais déborder. Et en fait, la coupe se remplit, tout ce qui est dans la coupe est pour nous, et tout ce qui déborde est pour les autres. Donc, je vous laisse méditer sur ces choses. Quand on veut dire à quelqu'un qu'il est fainéant, alors ça vient de moi, quelqu'un qui est fainéant, qu'est-ce qu'on dit ? Il a un poil dans la main. Et quand on veut dire qu'il est vraiment, vraiment fainéant, qu'est-ce qu'on dit ? Enfin, qu'est-ce que vous dites ? Il a un baobab. Alors, en fait, je dis ça parce que dans Matthieu 7, au verset 3, il est dit « Pourquoi vois-tu la paille dans l'œil de ton frère ? Et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Et ce qui est amusant, en fait, c'est que Jésus ne dit pas, comme nous, t'as un poil ou un baobab, il dit une paille et une poutre. Il aurait pu dire un tronc. Et en fait, une poutre, c'est quelque chose qui a été travaillé par la main de l'homme. Une poutre, ça fait partie d'une charpente qui soutient un édifice. Et dans ce sens-là, on peut comprendre que la poutre fait partie de ce qui soutient notre raisonnement. Comment on a construit notre raisonnement, notre façon de voir les choses et d'interpréter les choses. Alors je donne un exemple de poutre qu'on peut avoir quand on parle de choses. Souvent, par principe, les choses qu'on ne voit pas n'existent pas. Ce qu'on ressent, ce qu'on ne ressent pas, n'existe pas non plus. Ce sont nos critères humains. Et donc, quand dans un temps de louange, on parle de sentir la présence du Seigneur, ça peut donner à peu près ça. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais on est dans un temps de louange et le président reprend après la louange, il dit... Ah, comme on a senti la présence de Dieu. Et puis, vous dites, ouais, bof. En même temps, j'ai l'impression que le groupe de louange n'est pas tout à fait accordé. Alors, c'est pas ce matin, hein, David. Hein. C'est un exemple. Donc, le président, il dit, la présence de Dieu. Et puis, nous, on peut se dire, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais... Moi, je peux dire, ouais. Alors j'ai le choix, soit je dis, il abuse, il surjoue le truc. Ou alors je peux me remettre en question, me dire, ouais, bon, je suis nul, moi, je n'ai rien senti. Et on peut avoir un sentiment d'exclusion. Alors ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu est toujours présent. Est-ce que vous êtes d'accord? Il est toujours là, il est toujours présent. C'est impossible qu'il ne soit pas là. Alors pas seulement ici, aussi dehors, ou même n'importe où on va, il est présent. La question, c'est juste, est-ce que nous sommes présents? Est-ce que nous, nos cœurs, nos yeux voient ce qui est la réalité? Et pour ça, j'aimerais lire 2 Rois 6, verset 17. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et c'est aussi une prière que peut avoir quand nous sommes dans notre temps de louange ou dans notre temps personnel avec le Seigneur, que nos yeux s'ouvrent et que nous voyons la réalité. Et ce matin, nous avons commencé de belle manière en donnant gloire au Dieu Tout-Puissant. Et c'est vrai qu'il est là ce matin avec nous. Alors j'aimerais continuer dans ce chemin vers l'intimité avec Dieu. Dans Luc 15, verset 11, Jésus raconte la parabole du fils prodigue. Alors je ne sais pas si tout le monde la connaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas la parabole du fils prodigue? Sinon, je vais raconter l'histoire, hein. Il n'y a pas de piège. Donc, en fait, Jésus raconte cette histoire. Et le contexte, c'est qu'il y a d'un côté les pharisiens, les sadducéens, les hommes de loi. De l'autre côté, il y a les gens de mauvaise vie, les publicains, les pécheurs. Et au milieu, il y a les disciples de Jésus qui écoutent son enseignement. Et quand Jésus parle de cet homme qui avait 2 fils, il y a donc ce fils, le cadet, dont on parle beaucoup, qui a fait n'importe quoi, qui a dilapidé l'héritage, et il y a le fils aîné. Et dans ce contexte où Jésus raconte l'histoire, bah le fils le plus jeune, celui qui a demandé l'héritage, qu'il a dilapidé, c'est les gens de mauvaise vie, c'est les publicains, on peut dire. Et de l'autre côté, les pharisiens, ce sont les fils aînés. Et en face, les disciples, ils sont au milieu, ils écoutent ce que Jésus dit. Alors, par rapport à cette histoire, il y a une poutre que Dieu m'a montrée dans ma vie. Et je grossis un peu le trait pour que ce soit parlant, mais ce que j'ai remarqué cet été, c'est vraiment cette mentalité de frère aîné, cette mentalité de pharisien. Et en fait, les pharisiens, ils étaient intègres dans le sens où ils étaient sincères. Leur désir, c'était de ne surtout pas être souillés par de l'impureté. Donc on ne touche pas un mort, enfin on ne touche pas un cadavre, on fait attention à tout ce qu'on mange, pour pas être impur, ce qui nous éloignerait de Dieu. Et en fait, cela les a constamment mis en opposition avec l'action de Jésus, qui lui était là pour transmettre la vie. Alors, pour un frère aîné, donc ce que j'ai vu dans ma vie, c'est que ce qui est important, c'est toujours que les choses soient bibliques. Alors ça, vous êtes d'accord, c'est normal, hein, on veut que les choses soient bibliques, mais ça devient quelque chose de le critère. Alors c'est bien, seulement le problème, c'est que ce qu'on n'a pas compris ou ce qu'on n'a pas expérimenté, ça ne peut pas être biblique, puisque sinon je l'aurais expérimenté. Et c'est là que ça commence à coincer. Alors Dieu a fait preuve de beaucoup de patience avec moi au cours de ces années. Et il a vraiment pris ce temps de m'enseigner et de me montrer que c'est biblique. Et je sais qu'au début, c'était « est-ce qu'on lève les mains pendant la louange ?» Enfin, tout ce genre de choses, ça vient de loin, quoi. Maintenant, ça fait loin en arrière. Mais je me rappelle avoir témoigné à Josué quand on est arrivé, il y a plus de 10 ans maintenant, ou 15 ans. Et j'avais demandé pardon à l'église parce que Josué représentait tout ce que je détestais chez les charismatiques. Et c'est vrai que de là où je viens, il y a des choses qui m'ont déplu ou choqué. Mais Dieu a dû prendre ce temps de m'expliquer. Et vraiment cet été, ça m'a sauté aux yeux, cette mentalité de frère aîné. C'était une poutre, et c'est à travers cette poutre que je lisais tout ce qui se passe, et où j'interprète, et où j'analyse. Alors bien sûr, on veut que tout soit biblique, mais en même temps, on se compare aussi aux autres. On met en avant ce qu'on a fait. On se lève tôt le matin pour prier, pour lire la Bible. Je respecte la parole de Dieu, je suis honnête et tout ça, et donc on met ça en avant. Et le fils aîné, il reproche au père que, en fait, lui, il n'a jamais eu un chevreau pour faire la fête avec ses amis. Alors j'ai transposé ça dans mon actualité à moi, où je peux me dire. Seigneur, mais après tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai même pas eu une parole de connaissance pour quelqu'un, moi. J'ai même pas pu prier pour quelqu'un, il est guéri. Enfin, on commence à avoir ce genre de raisonnement. Alors, ça vous arrive pas à vous, hein, je parle de moi. On fait les reproches au Père. Parce qu'il y a des choses qu'on est en droit d'avoir et qu'on n'a pas. Et donc, il y a ce fils cadet. Alors, on peut être tantôt l'un, tantôt l'autre. Hein, c'est pas, on est catégoriquement... Parce que le fils cadet, ce qui le caractérise, c'est qu'il est indépendant. Lui, il veut voir, il veut faire sa life. Et puis, il veut ce qui lui revient et il s'en va. Pas de compte à rendre. Parfois, on est aussi là-dedans, hein, de dire, maintenant, je fais ce que je veux. Mais quand il est en crise, quand il est en galère, il a quand même besoin de manger. Et là, il se rappelle la maison du Père. Et là aussi, en fait, ce que l'on présente souvent comme un modèle d'humilité, quand il revient, c'est encore de l'orgueil et encore, cette volonté d'indépendance. Je vous explique. Quand il est chez les cochons, il dit « Je vais me lever, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Alors jusqu'à là, c'est bien. C'est le Saint-Esprit qui lui a révélé ces choses. Mais après, il continue « Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et là, c'est en fait, un mercenaire, c'est quelqu'un qui vient faire un boulot, il est payé pour faire ce boulot, et quand il a fini, il s'en va. Et donc, cela montre que le fils se laisse cette possibilité, finalement, de repartir. Et ce côté indépendant, où c'est parfois aussi pratique de n'être qu'un serviteur, parce que finalement, si on n'est pas très conséquent, finalement, je suis qu'un serviteur, hein, donc c'est pas grave. Et ce qui est intéressant dans cette parabole, c'est que quand on lit l'histoire, il vient effectivement chez son père et lui dit tout ce qu'il a dit avant, « Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Mais là, le père lui coupe la parole. Il n'a pas le temps de dire « Traite-moi comme un de tes mercenaires ». Il dit à ses serviteurs « Amenez la plus belle robe, tuez le veau gras ». Il change ce parcours et il l'emmène dans la maison pour faire la fête. Et donc nous savons dans cette histoire que le fils cadet, il est rentré avec le père pour faire la fête, mais le frère aîné, on ne sait pas finalement s'il est rentré ou pas. Alors dans mon histoire, il est rentré. Enfin, parce que moi, je suis rentré dans la maison. Et ça me fait penser aussi à l'histoire de la crucifixion. Il y a aussi un des crucifiés qui dit à Jésus, qu'il l'emmène dans son paradis, et dans son royaume. Et donc il rentre avec Jésus. L'autre, on ne sait pas non plus. Parce qu'il y en a un qui raconte qui accuse Jésus. Et le deuxième lui fait des reproches, lui dit, mais nous on mérite ce qu'on a eu, mais pas lui. Alors peut-être que ça a fait réfléchir l'autre. Et en tout cas, cela me fait penser que si on prend la Sainte Cène, enfin quand on prend la Sainte Cène, on peut aussi se dire que et le fils cadet et le fils aîné sont crucifiés avec Jésus. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de cette mentalité. Nous, on veut être vraiment dans cette identité de Christ, être une nouvelle personne, appelée fils et fille de Dieu en Jésus. Et donc, cette image, ça me parle, les deux brigands qui sont crucifiés avec Jésus, le fils aîné, le fils prodigue, par leur mentalité, hein, bien sûr. Donc, pour mon histoire personnelle, j'ai vraiment eu cette révélation d'entrer dans la maison. Non pas que je n'y sois jamais entré, parce on vit tous des moments de grâce où on est vraiment dans la présence du Seigneur. Mais après, il y a quelque chose qui arrive où on a été négligent ou bien on n'a pas été fier de nous et on est disqualifié. Et là, on retourne dans notre identité précédente, soit de frère aîné, et puis on se remet à bien faire les choses pour se rattraper. Et en fait, le psaume 23, il dit « Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie. » Et la grâce, c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal, en tout cas moi, à recevoir. On a toujours le sentiment qu'il faut qu'on fasse quelque chose. Mais non, c'est la grâce. Et chaque jour, alors ça ne veut pas dire que quand on rentre dans la maison, qu'on devient parfait. Mais la grâce est toujours là. Et quand il y a quelque chose qui n'est pas bien, on peut se repentir. Et on ne se repent pas pour être pardonné. On se repent parce qu'on est pardonné. Donc c'est tout à fait une autre façon de voir les choses. Alors j'ose en parler parce que ça fait un moment que ça dure et que vraiment je me sens dans cette maison. Et le psaume continue d'ailleurs. J'habiterai dans la maison tous les jours de ma vie jusqu'à la fin de mes jours. Donc c'est parallèle avec ce psaume 23 et Luc 15. Doit nous parler par rapport à cet amour de Dieu pour nous. Alors j'aimerais juste un peu dire par rapport à la grâce, pourquoi on a du mal avec la grâce? Parce qu'en Occident, on interprète la croix comme Jésus qui est abandonné du Père. Donc si Jésus est abandonné du Père, pourquoi Dieu ne détournerait-il pas le regard de nous quand nous faisons quelque chose de mal? Et donc, je ne sais pas, c'est peut-être inconscient, mais c'est quelque chose qui nous empêche de recevoir pleinement la grâce. Mais en fait, Jésus a dit, si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Y compris quand il est sur la croix. Quand Jésus est sur la croix, Nous voyons aussi le Père qui se donne. C'est pas celui qui est rejeté par le Père qui meurt à notre place, c'est le Père lui-même aussi qui se donne. Alors il y a cette parole, pourquoi m'as-tu abandonné? Et en fait, c'est le début du psaume 22. Et bon, je ne veux pas aller dans les détails, mais dans la culture hébraïque, il y a quelque chose qui a un nom, mais j'ai oublié le nom, mais où on commence à dire un texte et tout le monde connaît le texte et peut réciter la suite. Et Jésus, dans son état sur la croix, n'était pas en mesure de réciter un psaume 22 en entier. Et donc il a dit cette première parole du psaume 22, et les gens qui étaient là au pied de la croix savaient de quoi il voulait parler. Et je vous invite à lire ce psaume 22 pour voir que c'est vraiment la description de la crucifixion et aussi de la gloire de Dieu qui se manifeste aux hommes. Et en aucun cas on peut dire « Mais Dieu a abandonné Jésus ». Alors j'aimerais terminer avec ce retour au psaume 23. Alors j'ai commencé à le lire tous les jours et en fait ce psaume commence par le repos. Avant de faire quoi que ce soit, il y a le repos, il y a la restauration de notre âme que Dieu veut opérer. Et là je suis encore dans la période de repos. Et j'ai dit, Seigneur, mais dès que tu penses que je suis prêt à avoir une parole pour quelqu'un ou dès que tu penses que je suis prêt à faire quelque chose pour toi, ben vas-y quoi. Et en tout cas, c'est vraiment un beau psaume à dire tous les jours. Et en même temps, on dit, je ne manquerai de rien. Et je ne sais pas vous, mais moi, il me manque plein de choses. Mais ce que j'ai compris, c'est que en fait, ce que je n'ai pas ne me manque pas. Et ce dont j'ai besoin, le Père pourvoit. Et ça amène beaucoup de repos. Et le monde veut nous faire croire qu'on manque plein de choses. On n'a pas la dernière voiture, on n'a pas la plus grande télé, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. On est dans un monde qui nous fait manquer de plein de choses, mais en fait, ce que je n'ai pas ne me manque pas, parce que le Père comble ma vie. Et donc, ce dont j'ai besoin, il me le donne. Alors, je termine en disant, j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Et j'étais dans cette attitude, mais Seigneur, j'ai tellement envie d'être en communion avec la Trinité. Et une nuit, j'étais dans un demi-sommeil et j'étais à table avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et je ne voyais pas leur visage, bien sûr, mais je savais que c'était eux. Et il y a ce mot qui revenait, communion, communion, communion. Et je me suis réveillé avec ça. Et alors, j'ai regardé dans la Bible, communion. Et donc, il y avait ce verset de 2 Corinthiens 13:13 qui dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Ça me bouleverse là, quand je le dis. Parce que vraiment, ça m'a percuté, la communion avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est devenu réel, c'était pas juste une formule, une belle formule chrétienne à la fin d'une lettre. Mais c'est devenu vraiment concret, cette communion. Et je peux vous dire que depuis ce jour-là, quand il y a un temps de louange, moi j'ai les larmes aux yeux parce que c'est Jésus est là, le Père est là, le Saint-Esprit est là. Et voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin et vous encourager vraiment à vous approcher du Père, à vous laisser restaurer. Et franchement, je vous encourage encore une fois à faire ce parcours biblique avec Pierre Kranga, parce que tout ce que j'ai dit ce matin, il l'explique vraiment en détail, il donne toutes les références qu'il nous faut si on est un peu sceptique par rapport au fait que ce soit biblique. Il donne aussi beaucoup d'informations historiques et beaucoup de choses par rapport au peuple juif, et c'est vraiment intéressant. Alors je vais simplement terminer avec ce verset de 2 Corinthiens 13. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.